Laissez-moi vous raconter aujourd'hui une histoire émouvante, celle d'un vieux monsieur intimidé qui s'était laissé convaincre par ses petits-enfants de partir à la chasse aux ancêtres, un sujet qui, jusque-là, ne l'avait jamais empêché de dormir. C'est qu'il était bien persuadé de savoir l'essentiel. Aussi loin que remontaient les souvenirs de son grand-père, qu'il avait connu jusqu'à ses 12 ans, il savait bien que la famille n'avait pas quitté la ferme du Paradis, dans ce marais breton, qui, sous l'Ancien Régime, marquait la limite entre deux provinces françaises, la Bretagne et le Poitou. Dans ce paysage que borne un réseau de canaux d'eau salée, qu'on appelle ici des étiers, où alternent les prairies humides et les polders, et où on se protège tant bien que mal des formidables vimères, où les vents violents et les fortes marées se brisent aujourd'hui sur des digues qu'il faut sans cesse entretenir, la famille Guérel semblait accrochée depuis la nuit des temps. « On était d'ici et donc point d'ailleurs, » disait l'aïeul du grand-père. Qu'avait-on besoin de savoir de plus? Dans les fermes environnantes, les voisins étaient tous cousins, et il en avait toujours été ainsi. En dansant la maréchine au bal des conscrits, on avait de tout temps fait tourner la tête d'une fille du pays de Ray, du Marais-Doux, de Chaland ou de Noirmoutier, avec qui on avait assuré la relève des générations. Mais les petits-enfants avaient insisté, et le vieux monsieur s'était vu convaincre de ressortir les livrets de famille de ses propres grands-parents et d'ouvrir les boîtes de photos fanées pour donner quelques munitions de recherche aux généalogistes chargés d'assister la famille dans sa quête d'ascendant. Le vieux monsieur s'était acquitté de sa tâche et les documents avaient changé de main. Il conservait pourtant une photo qu'il hésitait à donner, mais dont il avait manifestement envie de parler. Cette photo, disait-il, l'avait toujours intrigué. Il ne savait pas vraiment comment elle était entrée en sa possession, à l'aide de son père sans doute, mais ils n'en avaient jamais parlé ensemble, ça, il s'en souvenait bien. Il savait, mais en réalité, il croyait savoir que c'était la photo de mariage de ses grands-parents paternels. Ce qu'on avait sous les yeux, en tout cas, c'était un groupe d'importance qui s'était serré pour faire face à l'objectif du photographe. Pas moins de 71 personnes, hommes, femmes et enfants, en les comptant précisément. Ce qui retenait tout de suite l'attention, c'était au premier plan le sourire un peu figé de 3 jeunes mariées en costume traditionnel vendéen. À la gauche de chacune d'entre elles figuraient les 3 hommes qui, depuis peu, étaient devenus leurs maris. Le vieux monsieur, bombardé de questions, était bien incapable d'identifier son grand-père et sa grand-mère, et encore moins les autres couples. Pas plus d'ailleurs qu'aucun membre de la petite foule de personnages qui les entouraient. La recherche de sa lignée la plus complète possible l'intéressait finalement bien moins que le mystère de cette photo qu'il aurait voulu faire parler. C'est donc par là qu'il fallait commencer, pour s'assurer de la participation active d'un allié aussi privilégié. Le livret de famille des grands-parents fournit d'emblée les données essentielles, la date et le lieu. Il s'était en effet marié le 7 octobre 1912 dans le petit village vendéen de Boin. Pour situer le village, retenez que le long de la côte atlantique, il sert de frontière entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Son horizon permet de découvrir l'île de Noirmoutier. La photo coïncidait sans doute avec le repas de mariage qui, il est vrai, avait pu se tenir en un autre village proche. Mais on savait maintenant où chercher. Les différentes bases de données des sites de généalogie étaient muettes ou incomplètes sur la famille Guérel. Ça arrive. Mais la consultation de l'état civil numérisé des archives départementales de Vendée livra rapidement la clé de l'énigme. Il y avait bien eu à Boin 3 mariages simultanés à la date du 7 octobre 1912. 2 familles avaient uni leur destin avec les épousailles de 2 frères et d'une sœur Guérel, avec 2 sœurs et d'un frère Rimbaud. Dans la famille Rimbaud, il y avait même 2 jumeaux, un frère et une sœur, unis ainsi le même jour. C'était un grand jour de bonheur que ce 7 octobre 1912, l'un des derniers sans doute vécus par ces 2 familles de cultivateurs maraîchins. Moins de 2 ans plus tard, 5 jeunes hommes présents sur la photo de noces, dont les 3 jeunes mariés, sont enrôlés dans la Grande Guerre. Ce sont dorénavant leurs dossiers militaires qui parlent pour eux et signe la triste chronique familiale. Florent Guérel avait 26 ans lorsqu'il a épousé Valérie Rimbaud. Il était de petite taille et une otite avait terriblement réduit son ouïe. Il ne s'en retrouve pas moins au front dans les rangs du 153e régiment d'infanterie au moment où naît sa fille Valérie. Une balle l'atteint au mollet droit en septembre 15. Il est évacué pour soigner sa blessure et revient au front en mars 16. 3 semaines plus tard, le 7 avril, il est fait prisonnier à Malancourt, dans la Meuse. Le même jour, dans la même commune, son frère Henri, mobilisé dans le même régiment que lui, est porté disparu au cours des combats. Le bois de Malancourt a une sinistre réputation depuis que l'armée allemande y a utilisé pour la première fois le lance-flammes dans une bataille. Florent, lui, est interné dans un camp en Allemagne, d'où il ne sera rapatrié qu'en janvier 1919. Pierre, le petit frère de Florent et d'Henri, monte au front à 22 ans. Il y fait preuve d'un grand courage et sera cité 3 fois à l'ordre du régiment. On le décrit comme un modèle de sang-froid et de courage. Le 10 août 1918, pris sous un feu violent d'artillerie et de mitrailleuses, il assure la progression de sa section dans l'ordre le plus parfait. Blessé grièvement à la poitrine, il continue néanmoins à entraîner ses hommes en avant, puis, obligé de se laisser évacuer, il témoigne du plus vif regret de ne pouvoir continuer le combat. Sa blessure entraîne une lésion de la moelle épinière qui le paralyse. Il meurt à l'hôpital quelques jours avant l'armistice. Son beau-frère, Fernand Rimbaud, 23 ans, avait de son côté été tué sur le front de l'Aisne en décembre 17. Ainsi, à la fin de la guerre, 4 visages se sont effacés de la photo de noces de 1912. 3 ne reviendront pas et un 4e est toujours prisonnier de guerre. Les Guérelles ont, comme tant de familles dont les noms se gravent dans les monuments aux morts, payé pour leur patrie le lourd tribut du sang. Informé de ce cruel destin familial dont il ne savait rien, le vieux monsieur n'a pu cacher son émotion. Il passera de longues minutes devant le monument aux morts du village à s'imprégner des noms de ses grands-oncles qu'il n'avait pas connus, Henri et Pierre Guérel et Fernand Rimbaud. Son grand-père ne les avait jamais évoqués, pas plus qu'il n'avait raconté son propre périple dans les tranchées ou en Allemagne pendant ses presque 3 années de captivité. Notre vieux monsieur avait pourtant raison dès le départ. Les Guérel étaient bien d'ici et point d'ailleurs. 10 générations l'avaient bien précédé dans ce qui était alors une petite île dans la baie de Bourgneuf. En 1620, Gervais Guérel, son plus ancien ancêtre connu, naît à Boin, dans une époque troublée au cœur des guerres de religion. Ralliés à la Sainte Ligue catholique, les habitants de Boin furent mis au pas par les troupes d'Henri IV, qui pourtant décida de leur pardonner. Le roi songea même à les visiter en traversant le bras de mer du Dun, qui les isolait du continent sur plus d'un kilomètre. Mais les vents étaient contraires et il y renonça. Les Guérel étaient laboureurs, sans posséder le moindre arpent. Prénommés Gervais, Julien ou Étienne, ils traversèrent le règne de Louis XIII et de Louis XIV en louant leurs maisons et leurs enclos dans différents villages de l'île de Boin. Tous les Bouinais connaissent alors les mêmes dures conditions de vie. Je vais essayer de vous en décrire le cadre. Leur maison ne comporte qu'une seule pièce qui fait office de cuisine, de salle à manger, de chambre à coucher avec une grande cheminée. La pièce est éclairée par une unique fenêtre. Dans le foyer, le feu est allumé dès le matin pour avoir de l'eau chaude afin de laver la vaisselle, préparer la boisson des veaux, chauffer la soupe ou faire le café. Le feu doit être entretenu toute la journée pour conserver un peu de chaleur. L'île ne produisant pas de bois, les Guérel se chauffent comme tout le monde avec des bousas. Une bouse animale séchée, façonnée et additionnée de déchets de moissonnage ou de paille. Le sol est en terre battue et la pièce est séparée par quelques meubles qui font office de cloison. Passons maintenant à l'extérieur de la maison. Là, on découvre le four avec la boulangerie accolée dans un appentis. Une autre resserre de l'autre côté du four permet de loger le cochon. À l'autre extrémité, une écurie abrite pendant l'hiver quelques vaches avec leurs veaux et le cheval. Les habitants, hommes, femmes et enfants, mènent donc une vie pauvre et misérable. Ils n'y font pas de vieux os. Gervais, le fils de l'ancêtre, prénommé comme son père, meurt à 49 ans en 1706. Son propre fils, Julien, décède lui à 30 ans, à peine, en 1723. Il trime sur une terre en permanence frappée par la mer, qu'il est aussi difficile de cultiver. Le petit territoire s'est fragmenté à l'extrême depuis que le commerce du sel est devenu la grande affaire de l'île de Boin à partir du 9e siècle. Dès le 12e, des moines bénédictins firent entreprendre des travaux colossaux pour mettre en exploitation des marais salants. Des milliers de fossés furent creusés et les étiers endigués. La terre ainsi retirée formait des bossies de culture qu'on ne semence à l'automne pour le blé et l'hiver pour les fèves. Le travail à la force des bras et avec la seule pelle des marais est particulièrement pénible et les rendements sont faibles. La nourriture de la famille est pauvre, avec un peu de laitage, des féveroles, du poisson et des coquillages pêchés sur les rochers de la baie ou dans les fossés d'eau salée. Il y a toujours du pain noir, fait de farine d'orge et de farine de fèves, cuit dans le four de la maison. Tous boivent uniquement l'eau des abreuvoirs du Marais, d'une qualité déplorable, surtout l'été. Les trois générations, qui correspondent ainsi à nos deux Gervais et à Julien Guirel, habitent une île devenue insalubre, avec de terribles épidémies de choléra qui déciment sa population de paysans paludiers. Paludiers, c'est le nom qu'on donne aux travailleurs qui récoltent le sel dans les marais salants. Aucun d'entre eux ne verra jamais un médecin dans toute sa vie. Le début du XVIIIe siècle est terrifiant. En 1703, Gervais peine à nourrir sa femme et ses deux enfants, Julien 10 ans et Jacques 7 ans. C'est une année de grande famine, aggravée par les maladies contagieuses. Paludisme et choléra frappent ensuite de concert en 1704 et l'année suivante, à la fin de décembre, un ouragan rompt les digues, détruisant les maisons, tuant les bestiaux, ruinant les récoltes. Gervais meurt un an plus tard. Sa femme Louise et leurs enfants ont encore à affronter le grand hiver de 1709 qui accable l'île et plonge ses habitants dans de grandes souffrances. Les seigneurs de l'île prennent leurs responsabilités. Ils décident de mettre un terme à l'aménagement des marais salants. Ils stoppent les travaux de creusage des marais et entreprennent la construction des premières digues du front de mer. Cette fois, il s'agit de protéger le marais et de l'assainir. Le cours de la vie de Julien, l'un des enfants de Gervais et de Louise, se déroule tout au long du règne de Louis XV. Il meurt en 1772 à moins de 60 ans. Il connaîtra l'une des premières améliorations du sort de la population, avec la création en 1735 de l'hôpital de Boin. J'ai sous les yeux le texte de l'enregistrement des lettres patentes de l'établissement. Ça nous donne une idée de ce que vivent les familles de l'époque. L'écrit mentionne l'état des nombreux malades et infirmes à cause des mauvaises eaux et des exhalaisons des boues de marais. Il détaille le sort d'une île très basse, affligée souvent par des vimères et des inondations, et par là sujette à un air d'autant plus mauvais qu'il est toujours extrêmement épais, causant beaucoup de maladies et même des aveugles avant l'âge de 40 ans. Les malades ne peuvent recevoir aucun soulagement des hôpitaux voisins à cause des mauvais chemins pendant l'hiver et de la difficulté d'entrer et de sortir par des bateaux pour traverser un bras de mer d'autant plus incommode qu'il y a souvent du péril. 25 ans plus tard, en 1760, une supplique des habitants de Boin au roi Louis XV souligne encore que les malheureux habitants sont obligés de boire l'eau de leurs bestiaux, eau presque toujours saumâtre et semée de germes infectieux. La vie de Julien ne diffère donc guère de celle de ses ascendants. C'est une lutte perpétuelle contre la misère et les éléments. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Essayons de nous imaginer ce que fut, par exemple, la nuit du 14 au 15 mars 1751. Le vent est si impétueux que la mer renverse les digues et les chaussées arrachent les pierres dont elles sont revêtues et fortifiées. Au matin, lorsque Julien, terrifié par une nuit sans sommeil, ouvre sa porte, la désolation est totale. Les marais salants et les étiers sont remplis de boue, tous les prés sont inondés et ainsi salés, comme le sont devenus les abreuvoirs des bêtes. Les terres ensemencées sont ruinées. Dans la journée, Julien prend des nouvelles de ses voisins. Nombre d'entre eux n'ont sauvé leur vie qu'en montant sur leurs meubles ou sur les poutres de leur maison. Ensemble, ils constatent les dégâts. Le vent déchaîné a arraché les toitures et ébranlé les murs. Dimanche, comme tous les paroissiens, Julien se lamentera devant les dommages considérables causés à l'église du bourg. Allez, passons à Étienne. Étienne Guérel, le fils de Julien. Il est né à Boin en 1753 et il représente la cinquième génération connue de la lignée. La première, vous vous souvenez, c'était le fameux Gervais en 1620. Étienne s'est marié à 24 ans à Louise, une fille du pays. 4 ans plus tard, il loue pour 6 années une maison et quelques terres au village des Vermeilles. L'activité ancestrale de labourage n'est pourtant plus suffisante à assurer la vie de la famille. Étienne a donc pris un second métier. Il devient aussi saunier, tirant le sel formé dans les œillets avant de l'égoutter et de le transporter au mulon, sur le Bossy. Une tâche exténuante à laquelle il se convertit au plus mauvais moment. En effet, le Dain, vous savez, ce bras de mer qui sépare l'île du continent, n'a cessé de s'envaser. La rencontre des deux courants qui contournent l'île accumule les sédiments et condamne les actifs ports qui assurent l'exportation du sel vers les Pays-Bas, les pays scandinaves et même la Russie. Mais le pire, c'est que les marais salants les plus éloignés, de moins en moins approvisionnés par le Dain, ne pouvaient plus faire leur plein d'eau. Ainsi, en 1767, il a été décidé d'inverser le cours des étiers, ce qui entraîna le déclin du commerce du sel et l'abandon progressif de nombreux marais salants qui n'étaient plus alimentés en eau de mer. Étienne, ainsi, sera le seul laboureur saunier de toute sa lignée. Allez, on revient encore au Dun. Malgré son envasement progressif, il avait encore à l'époque une largeur de 400 mètres et devait être traversé en bac. Mais c'était toujours avec beaucoup de danger. Le 12 août 1782, Étienne apprendra, consterné, le naufrage du bateau qui assurait le passage d'une rive à l'autre. Comme toujours, il était surchargé d'hommes, de femmes et d'animaux. En coulant, il entraîne dans la mort 11 habitants de l'île et la plupart des animaux, dont de nombreux chevaux. On le voit bien, la génération d'Étienne n'est pas mieux lotie que celle qui l'ont précédée. J'ai d'ailleurs retrouvé un mémoire que les habitants de Boin ont adressé cette fois au roi Louis XVI en 1787. Vous vous souvenez, le précédent, en 1760, était destiné à son arrière-grand-père Louis XV. Je vais là aussi vous en lire quelques extraits pour que nous comprenions bien que rien n'a changé en 150 ans. Pendant 8 mois de l'année, l'île de Boin est un bourbier affreux. Les chemins sont impraticables aux voitures, aux hommes et aux chevaux. Tout commerce est interrompu avec la terre ferme et les habitants sont privés des denrées de première nécessité. Ils sont obligés de faire venir par mer, à grand risque et à grands frais, tout ce dont ils ont besoin, y compris le bois de chauffage. Et encore la plupart se chauffent-ils avec la fiente des animaux. L'île ne produit ni vin, ni bois, ni fruits, ni lin, ni chanvre. À peine y trouve-t-on de l'eau potable. Isolés de toute communication, ils vivent concentrés dans leur île, presque toujours occupés à réparer leurs digues et à entretenir des milliers de canaux nécessaires pour la formation du sel que les immenses dépôts vaseux de la baie de Bourgneuf engorgent tous les ans. Alors là, nous sommes à 2 ans de la prise de la Bastille. Le pays s'apprête à sombrer dans le chaos. Les horreurs de cette révolution, pour l'instant bien lointaines, seront heureusement épargnées à notre Étienne Guérel lorsqu'il meurt à 38 ans. En octobre 1791, la Vendée est encore à l'abri. Mais pour Louis, sa veuve, et ses enfants, comme pour toute la population de la petite île, le cauchemar va s'installer. Le 24 février 1793, la Convention décide la levée en masse de 300 000 hommes pris parmi les célibataires ou les veufs de 18 à 25 ans. À Boin, comme presque partout dans l'Ouest, beaucoup de ceux qui étaient appelés se cachent. Un foyer d'insurrection se développe, recevant ses ordres de charrette. On arbore le drapeau blanc sur le clocher et on coupe l'arbre de la liberté. Un chef vendéen, François Pajot, connu pour sa férocité et son audace, commande les insurgés. Les Bleus n'acceptent pas l'outrage. Boin va en payer le prix fort. Le 6 décembre 1793, le général républicain Haxo s'empare de la ville. Une partie des habitants se cache dans le clocher de l'église. 85 d'entre eux y furent découverts, dont 65 femmes. 33 furent aussitôt encordés et fusillés. Étienne Guérel porte le même nom que son père. Vous arrivez à suivre, j'espère. Il fut orphelin à 7 ans. Marié à 21 ans, il eut une existence plus paisible avec sa famille, dans leur maison de la Nue. C'est le nom de la maison. Certes, les inondations continuent à frapper Boin, qui est toutefois de moins en moins une île, puisqu'un premier pont de bois la rattache au continent en 1834, en franchissant ce qui reste du Dun. La vie s'améliore et même les épidémies commencent à regresser. Le fils du deuxième Étienne, Pierre, né en 1825, va être le premier de la lignée à quitter Boin. Il s'établit de l'autre côté du Dun, à Beauvoir-sur-Mer. En 1849, il devient préposé aux douanes à La Crosnière. La Crosnière ou La Cronière, encore une île, certes minuscule, qui s'est fait avaler par le continent. Rattachée à Noirmoutier jusqu'en 1792, elle est absorbée par la commune de Beauvoir-sur-Mer lorsque le chenal qui l'en séparait s'envase lui aussi complètement. À La Cronière, Pierre rencontre Sévère Sauret, dont les parents possèdent une petite exploitation. Il a 24 ans, elle 19, il se marie en juillet 1849. Comme son beau-père est alors décédé, Pierre quitte l'uniforme des douanes qu'il n'aura guère porté et retourne aux travaux des champs comme tous ses ancêtres. Avec sa femme et leurs enfants, il reviendra à Boin pour exploiter la ferme du Paradis en 1872. N'en profitera guère, car il meurt la même année à l'âge de 47 ans. Je vous l'avais déjà dit, les Guérel ne font pas de vieux os. Avant de disparaître, Pierre a eu en plus le chagrin de perdre son fils aîné Stanislas. Il était le premier à décider de prendre la mer. Apprenti marin, il décède à 21 ans à l'hôpital maritime de Port-Louis, dans le Morbihan. Son second fils, Laurent, né en 1856, nous est déjà familier. Avec lui, nous revenons à notre fameuse photo de 1912. C'était le père de trois des mariés. Reconnaissons-le bien cette fois, en cette fin du XIXe siècle, la vie est meilleure pour les Guérelles, comme pour tous les Bouinets. Mais la menace est toujours bien ancrée dans leur vie. La mère continue de mugir avec son épouvantable fracas. Elle n'a jamais accepté les contraintes qu'on tente de lui imposer avec les digues sans cesse entretenues et remises en état. Aussi, au moment des grandes tempêtes qui frappent chaque année, Florent et les siens tremblent toujours, comme tous leurs concitoyens. Tant que les éléments se déchaînent, les hommes restent en permanence sur les bords de mer. Ils surveillent les digues. Il faut tout faire pour éviter une nouvelle inondation. Tous connaissent le prix à payer, avec l'infertilité des terres pour 2 ou 3 années, peut-être plus. Pour les Guérelles, comme les autres fermiers, c'est la misère assurée. Florent n'a pas 40 ans en 1894, lorsqu'à nouveau, une vague immense et furieuse s'élève au-dessus des levées et ruine leurs terres dans le sel. Pourtant, le progrès est là, qui s'insinue dans leur vie. Boin est désormais arrimé au continent. Le Dain n'est plus un obstacle et on peut se déplacer plus facilement à Beauvoir-sur-Mer, à Machecoul ou même à Chaland pour un marché, une foire ou consulter un médecin. Florent a épousé Joséphine en 1885 et leurs enfants ont désormais accès à une école laïque, une pour les filles, une pour les garçons. Certes, on ne les y envoie que si on n'a pas besoin d'eux. Lorsque tout le monde est occupé à faucher, à faner puis à moissonner, les enfants sont indispensables. Il leur faut surveiller les petits, garder les bêtes et même effectuer certains travaux, comme l'arrachage des févroles. Mais enfin, on commence à entrevoir un avenir où on va moins s'échiner pour ne gagner que des clopinettes. En 1889, Florent et Joséphine assistent un peu médusés à l'arrivée de la première machine à battre les céréales qui avait été amenée par la route au magasin de la Société des Polders au pont du Frêne pour effectuer le battage des récoltes des polders proches. Le progrès est plus lent pour les habitations, pour les vêtements et la nourriture, qui finalement n'ont que peu varié depuis l'Ancien Régime. La maison compte tout de même de plus en plus souvent 2 pièces, même s'il n'y a toujours pas de distinction entre la chambre et la cuisine. La 2e pièce, quand elle existe, on l'appelle alors la belle chambre. Elle sert uniquement de chambre à coucher. La vie continue de s'ordonner autour de la cheminée, toujours immense, avec ses bancs disposés dans le foyer où l'on se chauffe pendant de longues soirées d'hiver. Pour coucher la nombreuse famille, on trouve invariablement 2 grands lits très élevés où on plonge dans des thés d'étoffe imprimés ou d'indiennes très voyantes, toujours en harmonie avec la pièce d'étoffe que l'on adapte au manteau de la cheminée pour l'empêcher de fumer. Au milieu de la chambre, en terre battue, trône la grande table de ferme avec ses 2 bancs où la famille prend ses repas. Tout autour, près des murs, de hautes armoires, bourrées de linge et les cuivres bien polis et bien brillants. La mets est incontournable pour enfermer le pain, tout comme la laiterie, une sorte d'armoire où l'on met à l'abri de la chaleur et des mouches les grandes terrines de lait écumeux. La décoration est aussi sommaire qu'immuable, avec la photographie du soldat, le numéro du conseil de révision, les photos de communion du père et de la mère de famille, ou les vases gagnés un jour de foire. Alors comme nous l'avions fait, souvenez-vous, 150 ans plus tôt, on va sortir de la maison ensemble pour avoir un autre point de vue. Car si l'intérieur n'est pas particulièrement gai, l'extérieur est devenu coquet, avec des murs régulièrement blanchis au lait de chaux et la toiture de tuiles vives. L'étable au bout de la maison est plus spacieuse qu'au temps des aïeux. Le four a gardé sa place pour faire cuire 1 fois par semaine le pain que pétrit Joséphine. Florent, Joséphine et leurs enfants mangent mieux que Gervais et Julien à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Le beurre qui se mange avec le pain constitue le fond de leur nourriture. Quelquefois, aux grandes fêtes, au carnaval, la famille achète un peu de viande de boucherie. Jamais ou presque de volaille. Mais au moment des récoltes, on trouve toujours du porc sur la table. On profite aussi largement du brigandage de mer, et les enfants ramènent leur comptant de coquillages ou de crabes. En plus du lait caillé, on se rassasie de légumes, surtout les choux, qui sont destinés à faire la soupe de la semaine. La famille boit toujours de l'eau. Le vin est rare à table et servi seulement dans les grandes occasions ou en recevant des visites. Mais l'eau est toujours aussi peu salubre, et Florent doit se rendre au bourg avec des barriques pour les remplir d'eau potable à la pompe la plus proche. Mais cette fontaine est quand même bien loin et les Guérelles n'utilisent l'eau potable que très insuffisamment, comme tous ceux qui vivent dans les marais. Le mariage à la vie et à la mort reste toujours la grande affaire. On se marie toujours après la Saint-Michel, fin septembre ou début octobre, quand les gros ouvrages sont finis. Après avoir vendu le blé, on peut penser à faire la fête. Florent a ainsi épousé Joséphine un 12 octobre, et le grand mariage des trois enfants en 1912 s'est déroulé un 7 octobre. Aussitôt après la noce, tout reprend son cours. Le mari retourne au champ, sa femme l'aide, va qu'à la maison et traite les vaches. À Boin, comme dans les campagnes reculées de Vendée, on n'a pas beaucoup d'occasion de se réjouir en ce début de XXe siècle. Les amusements d'antan ont disparu et c'est la banalité ordinaire qui l'emporte. Bah, le jour où l'on tue le cochon, on y échappe encore et on y ripaille davantage. Les paysans comme les guérelles se réunissent en fin de semaine, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, autour de la cheminée. Les anciens parlent des récoltes, des moissons futures, du labour, les femmes tricotent ou allaitent leurs enfants. On mange des châtaignes grillées, arrosées d'un verre de vin. Les cartes sont le passe-temps favori. Florent, comme les autres, adore jouer à la luette dont les cartes sont originaires d'Espagne. Toute cette vie, qui commençait à être bonne, a volé en éclats avec la Grande Guerre. 1 500 000 Français y ont perdu la vie et près de 2 millions ont été blessés. À Boin, ils sont 94, morts ou disparus, à avoir leur nom gravé sur le monument aux morts. Parmi eux, les deux frères Guirel, Henri et Pierre, 26 et 28 ans, et leur beau-frère Fernand Rimbaud, 23 ans. Eugène Rimbaud, un autre des mariés de 1912, a seul traversé l'épreuve sans être blessé. Florent Guirel, souvenez-vous, ne rentrera de son internement en Allemagne qu'en janvier 19, pour reprendre sa tâche dans la ferme du Paradis, aux côtés de son père. Après tant d'épreuves, Florent retrouve un monde qui n'est plus tout à fait le sien, et dans lequel il a du mal à occuper sa place. Il n'a pourtant que 33 ans. Mais il a trop souffert, vu trop de camarades mis en charpie. Il a souvent touché au fond du désespoir, et l'internement forcé de ses longues années de prisonnier en a fait un homme qui ne se reconnaîtrait même pas sur notre fameuse photo de 1912. Même la vie des champs a changé trop vite. On le presse d'admirer les charrues attelées derrière les bœufs pour effectuer les labours, on lui montre les premières faucheuses, elles aussi tirées par des bœufs, avant que les chevaux eux-mêmes ne les remplacent. Mais les souvenirs des tranchées de la Meuse et du camp de prisonniers finissent toujours par s'interposer. Et Florent sent qu'il s'éloigne de ceux que leur âge a eux éloignés des champs de bataille. Il observe ce monde en mouvement et se tait de plus en plus souvent. Pas étonnant qu'il n'ait jamais évoqué ce qu'il a enduré, ni avec ses enfants, ni avec ses petits-enfants, Valérie, née en 1915, et Henri, née en 1919. C'est là que va se terminer notre histoire, car Henri Guérel n'est autre que le père du vieux monsieur qui nous avait confié la photo avec laquelle j'ai démarré ce récit. Je ne dirai pas grand-chose d'Henri, qui nous est proche dans le temps. Il a à son tour été mobilisé en 40, mais il est revenu au foyer dès septembre. Les Allemands avaient déjà envahi la Vendée depuis le 21 juin, et Boin se trouvait en zone occupée. Mais même les Allemands conquérants sont impuissants face à l'éternelle menace qui pèse sur les côtes de Boin. Le 16 novembre 1940, Henri, comme tous ceux de sa lignée depuis tant de siècles, voit la mer en furie s'abattre sur la commune avec des rafales de vent supérieures à 200 km/h. Les vagues explosent 2 mètres au-dessus des digues. Et à nouveau, tout recommence, avec des centaines d'hectares sous les eaux et un terrible spectacle de désolation. Les guérelles sont bien d'ici et point d'ailleurs.